Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 janvier, bonjour Anaïs Fega.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la crise ukrainienne, entretien téléphonique en fin de matinée entre Emmanuel Macron et son homologue russe. Les Américains brandissent la menace de sanctions contre Vladimir Poutine, nous verrons que ce n'est pas si simple. Les autres titres Anaïs.
Après deux mois de fermeture à cause du Covid, le Maroc va rouvrir ses frontières, des centaines de travailleurs bloqués en Corse vont pouvoir rentrer au pays. Le programme économique de Marine Le Pen dévoilé devant des patrons. Dans ce journal aussi, la géothermie et son énorme potentiel en Île-de-France. Et puis Raphaël Nadal sur la route de la finale de l'Open de tennis de Melbourne.
Les invités de France Inter ce matin, deux invités. À 7h50, celui qui est désormais l'un des plus grands alpinistes du monde, Charles Duboulose, qui vient de réaliser un exploit inédit, gravir seul en hiver la face nord des Grandes Jorasses dans le massif du Mont Blanc. Il nous racontera. Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le président du groupe Renault, Jean-Dominique Senard. J'attends vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Chercher la voie du compromis ou entretenir le rapport de force, quelle stratégie Vladimir Poutine veut-il poursuivre dans la crise ukrainienne? Emmanuel Macron s'entretient avec le président russe en fin de matinée au téléphone. La Russie exige toujours le non-élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et fait pression avec ses dizaines de milliers de soldats déployés à la frontière. L'invasion russe est possible en février, disent les États-Unis. Ils ont demandé une réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU lundi sur le sujet. Les Occidentaux prêts en tout cas à des sanctions contre la Russie en cas d'attaque de l'Ukraine. Les Américains allant jusqu'à menacer Vladimir Poutine de sanctions personnelles. Mais est-il si simple d'atteindre le président russe? Élément de réponse avec notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
Des sanctions contre des chefs d'État, les États-Unis en ont déjà prises récemment encore contre le président du Nicaragua, Daniel Ortega. Mais jamais encore, ils n'ont visé le président d'un État aussi important sur la scène internationale que la Russie. Techniquement, ces sanctions pourraient être de deux ordres, la saisie des avoirs à l'étranger et l'interdiction de territoire des États-Unis. Mais dans le premier cas, Vladimir Poutine n'est pas réputé posséder quoi que ce soit à l'étranger et même quasiment rien en Russie. Le palais qu'Alexei Navalny l'accuse de s'être fait construire au bord de la mer Noire est officiellement la propriété de l'oligarque Arkady Rotenberg. Quant à l'interdire d'entrer aux USA, Vladimir Poutine voyage très peu et ce serait aussi s'interdire de discuter avec lui, ce que Washington ne cherche pas non plus. En fait, d'éventuelles sanctions personnelles contre le président russe ou son premier cercle auraient surtout une valeur symbolique qui n'a pas échappé au Kremlin, qui a déjà prévenu qu'elle serait politiquement destructrice. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Autre menace américaine qui serait une déflagration dont les Européens ne veulent pas, la menace gazière. Nord Stream 2 n'ira pas de l'avant en cas d'invasion, a prévenu cette nuit la diplomatie américaine. Ce gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, dont Washington n'a jamais voulu mais qui est désormais achevé avec la bénédiction des Allemands, attend sa mise en service. Et si l'avenir de Nord Stream 2 est donc suspendu pour l'instant, Moscou pourrait aussi utiliser cette arme gazière en coupant les acheminements vers l'Europe. Scénario cauchemar selon le cercle Cyclope, avec des conséquences difficiles à gérer en plein hiver et en France, en pleine campagne, Delphine Simon.
En un an, les cours du gaz ont quadruplé et ça pourrait continuer si les bruits de bottes se confirment à la frontière ukrainienne. Nul doute que Moscou utiliserait l'arme du gaz pour faire pression. Une telle flambée entraînerait fatalement celle des cours du pétrole au-delà des 75 $ le baril attendu, explique l'économiste Philippe Chalmin, président du cercle Cyclope.
Si jamais le conflit avec l'Ukraine devenait totalement incontrôlable, en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous serions très très rapidement au-delà de $100 le baril.
Par ricochet, les cours de l'électricité continueraient de flamber, de quoi renchérir les coûts des entreprises électro-intensives, alors que de nombreuses usines dans l'acier ou l'aluminium tournent déjà au ralenti. Conséquence aussi pour les agriculteurs, car le prix des fertilisants est directement lié au cours du gaz.
Les engrais azotés sont produits à partir d'ammoniac, qui est extrait du gaz naturel. Donc on a assisté à une très forte hausse des engrais azotés. Lorsque les agriculteurs aujourd'hui achètent leurs engrais, ils les payent grossièrement deux fois plus cher qu'il y a un an.
En cas d'invasion russe en Ukraine, Moscou aurait le contrôle d'un tiers du blé produit dans le monde.
Delphine Simon, autre tension, autre crise, le Burkina Faso, sommet aujourd'hui des États ouest africains, 5 jours après le putsch. On en parle à 7h30.
Après 2 mois d'isolement quasi total, le Maroc rouvre ses frontières.
Les avions pourront à nouveau y atterrir à partir du 7 février. Les frontières marocaines étaient fermées face au coronavirus depuis fin novembre, empêchant ainsi la manne financière du tourisme de venir remplir les caisses, mais bloquant aussi des milliers de ressortissants marocains à l'étranger, comme ces 300 saisonniers en Corse venus récolter les clémentines et qui se sentent pris au piège, Magali Homo.
De l'incompréhension et surtout le sentiment d'avoir été abandonné par son pays. Hassan Jardini, 50 ans, originaire des Rachidia.
On a des enfants au Maroc, on a de la famille au Maroc qui nous attend. On est en colère parce que c'est un peu dur de rester sans travail.
Il est arrivé en octobre pour la cueillette des clémentines. Son contrat devait se terminer en décembre. Jean-Paul Mancel, son employeur, est bien embarrassé.
Moi, je peux pas assurer du travail, c'était pas prévu du tout. J'ai réussi à continuer pendant tout ce que je pouvais, mais voilà.
Sur cette exploitation, ils sont 8 à attendre, désœuvrés, mais logés.
Oui, ils sont logés, oui, dans ça, il n'y a aucun problème.
D'autres ouvriers ont réussi à se faire embaucher pour préparer la saison estivale, car la relève de saisonniers en provenance du Maroc est, elle aussi, bloquée. Stéphanie Scavino, animatrice de la filière fruits d'été, s'inquiète de ce retard.
Quelques semaines, ça peut paraître rien, mais à l'échelle d'une exploitation agricole qui a un planning assez serré sur des travaux bien particuliers, sur une saisonnalité particulière, ça peut mettre les gens dans le rouge. Quoi.
Face à cette situation inédite, l'État fait preuve de souplesse. Mais je dis Jamel, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse.
Ces personnes sont prises en charge au niveau administratif, donc elles ont un titre de séjour, donc elles ne sont pas en situation irrégulière.
Chaque année, la Haute-Corse fait appel à plus de 1000 travailleurs marocains pour la récolte des agrumes.
Côté épidémie, 130 000 morts. En moins de 2 ans, le cap a été franchi. La France a perdu l'équivalent d'une ville comme Annecy ou Limoges depuis le début de la pandémie et enregistre toujours autant de nouveaux cas, 400 000 hier. Les territoires ultramarins recevront, eux, en priorité le vaccin Novavax sans ARN messager. Il sera disponible fin février. 7 de ces territoires sont en état d'urgence sanitaire. Pour faire face au manque de médecins, la candidate socialiste à la présidentielle propose d'obliger les internes à exercer leur 4e année dans un désert médical. Anne Hidalgo en déplacement hier à l'hôpital de Laval. Christiane Taubira, elle tenait hier soir sa première réunion publique à Bordeaux où elle a dressé un inventaire, je cite, désastreux et dévastateur du quinquennat d'Emmanuel Macron. Quant à Marine Le Pen, objectif, se mettre les patrons dans la poche. Invité hier d'Éthique, un groupe d'influence à tendance très libérale, représentant 300 petites et moyennes entreprises, la candidate du Rassemblement National a présenté son programme économique, Noé Miller.
Pendant 2 heures, Marine Le Pen a vendu ses compétences et son programme.
J'ai rencontré des centaines de milliers de gens depuis 20 ans que je fais de la politique au premier chef pour déterminer précisément à quoi il faut en urgence répondre.
Baisse des impôts de production, pas de hausse généralisée du SMIC ou encore suppression des impôts sur les transmissions d'entreprise. Une opération séduction qui a convaincu la présidente d'Éthique, Sophie de Menton.
Elle a complètement changé. C'est une femme qui a appris. Elle a une force de conviction, un désir de réformer. Vous le sentez physiquement. Et donc c'est quelque chose que j'ai pas du tout senti, par exemple, avec d'autres candidats, ni avec Barnier, ni avec Zemmour. Moi, j'ai trouvé qu'elle était excellente, je suis bien obligée de le dire.
Un aveu qui détonne, elle avait soutenu Emmanuel Macron en 2017. Il reste en revanche un point de blocage, la retraite à 60 ans proposée par Marine Le Pen, parce qu'en voulant aussi séduire les travailleurs, la candidate brouille les pistes, lui reprochent certains patrons.
J'ai l'impression que votre discours est un peu à pas variable, me faisant penser de temps en temps à un Mélenchon féminin.
La candidate s'en défend.
Non, je suis pas de gauche, j'ai juste une vision sociale.
D'autant que sur la retraite, elle fera de nouvelles propositions dans les toutes prochaines semaines, pour encore parler à cet électorat patronal qui lui avait échappé il y a 5 ans.
Un patron qui se frotte les mains ce matin, le milliardaire Bernard Arnault, PDG de la LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, a réalisé en 2021 une année record, dépassant pour la première fois les 64 milliards d'euros de ventes, 12 milliards d'euros de bénéfices, un bond de 55% par rapport à 2019, encore meilleur que ce à quoi s'attendaient les analystes. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, le résultat est là aussi au-delà des attentes, le jackpot de Noël pour Apple. Il annonce un chiffre d'affaires en 3 mois de 124 milliards de dollars, malgré la pénurie de composants électroniques. Encore en bref, une polytechnicienne à la tête d'Orange, Christelle Edman, devrait être nommée directrice générale aujourd'hui, en remplacement de Stéphane Richard. Elle deviendra la deuxième femme à diriger une entreprise du CAC 40.
France Inter, 7h09, c'est une énergie verte disponible sous nos pieds.
Et le potentiel de cette énergie énergies renouvelables et bas carbone est considérable en Île-de-France. On parle de géothermie. Le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, vient de cartographier pour la première fois toutes les zones favorables dans la métropole du Grand Paris. 7 millions d'habitants sont concernés. Et Sandy Dauphin, la géothermie pourrait alimenter plus de la moitié des besoins en chaleur.
À Paris et sa banlieue, il existe déjà des quartiers entiers, des piscines, des bâtiments qui se chauffent grâce à la géothermie. Mais le potentiel est encore énorme. Le BRGM a évalué les ressources de surface, c'est-à-dire jusqu'à 200 mètres de profondeur, dans les 131 communes de la métropole du Grand Paris. Timothée Dupaigne, hydrogéologue au BRGM.
L'étude, elle permet de dire qu'on pourra alimenter un peu plus de la moitié des besoins en chaux de la métropole du Grand Paris, ce qui est assez considérable. Quand on fait des projets importants type ZAC, je pense aussi par exemple à des grandes infrastructures type village olympique ou autre, et ben on va pouvoir imaginer de prendre de la géothermie et ça permet d'alimenter ça avec une énergie verte.
Le principe, on utilise de l'eau du sous-sol pour chauffer les bâtiments l'hiver avec l'aide de pompes à chaleur et l'été pour fournir une clim verte.
Quand il fait 0 degré dehors, l'eau elle peut être à 15 degrés et donc on peut booster cet écart de température par ce qu'on appelle une pompe à chaleur qui, pour faire court, permet de surchauffer en fait l'eau. Et inversement, en été, quand il fait 30 degrés dehors, et ben l'eau est toujours à 15 degrés et ça permet d'avoir une température de 15 degrés dans les bâtiments. Et en contexte de réchauffement climatique, c'est très intéressant de pouvoir produire du froid.
De plus en plus de communes de la région parisienne s'intéressent à cette énergie renouvelable disponible sous leurs pieds.
L'ENA, c'est terminé. Un nouveau sigle pour former les futurs cadres de la fonction publique. L'INSP, l'Institut National du Service Public, voulu par Emmanuel Macron, inauguré aujourd'hui à Strasbourg par Jean Castex, avec la promesse d'être plus ouvert et de mieux refléter la France. On en parle à 8h. À Melbourne, s'il n'y avait pas eu le Covid, c'est sans doute Novak Djokovic que Rafael Nadal aurait dû croiser sur sa route ce matin en demi-finale de l'Open de tennis avant l'expulsion du Serbe. Mais c'est bien face à l'Italien Matteo Berrettini que l'Espagnol cherche à décrocher sa qualification pour la finale. À 35 ans, Fabrice Abgral.
Oui, c'est vrai, et c'est plutôt bien parti pour Rafael Nadal face à Matteo Berrettini dans cette rencontre débutée depuis 2h28, 2-7-1 en faveur de Rafael Nadal. Les deux premiers sets largement dominés par l'Espagnol, le numéro 5 mondial, 6-3, 6-2, mais superbe sursaut d'orgueil de Matteo Berrettini dans le troisième set, remporté sur le score de 6-3. Superbe sursaut d'orgueil parce que dans les deux premiers sets, il a été très largement dominé, l'Italien particulièrement apathique, particulièrement emprunté, voire fébrile de temps en temps, et Rafael Nadal en a profité donc pour remporter très facilement les deux premiers sets, mais perdu pour perdu, eh bien Matteo Berrettini a considérablement élevé son niveau de jeu dans le troisième set. Il joue beaucoup plus relâché maintenant. Il fait vraiment jeu égal maintenant avec l'Espagnol. Et dans la quatrième manche, 2-1 en faveur de Rafael Nadal. Mais Berrettini va servir dans quelques instants pour tenter de revenir à 2-2. Il faut se souvenir qu'en quart de finale, Nadal menait 2-7-0 face à Shapovalov avant que le Canadien ne pousse l'Espagnol dans un cinquième set. Peut-être qu'on va vivre ce même scénario face à Berrettini.
À suivre donc. Merci Fabrice Abgral. À 9h30, l'autre demi-finale, Tsitsipas contre Medvedev.
Merci Anaïs Feuga. Secret d'info, c'est dans 3 minutes, avec ce matin la mafia des réseaux de passeurs de migrants.